Depuis toute petite, je fredonne et je chante. Et je vais faire que chanter. Chanter et rêver. Rêver de devenir moi aussi une artiste.
Non, rien de rien.
C'est son rêve depuis toujours.
Non.
En 2002, Chimène Badi touche du doigt la vie d'artiste grâce à l'émission Popstar. Du jour au lendemain, la France découvre son talent. Elle a à peine 19 ans, mais cette voix exceptionnelle séduit immédiatement le public. Mais ce succès apporte son lot de défis.
J'avais pas mesuré qu'il y aurait tout ça derrière, en fait. Que la célébrité et la réussite engendraient aussi d'autres choses, comme la haine, la critique, le jugement.
Ses failles, elle a appris à les guérir. Et aujourd'hui, après 20 ans de carrière, 7 albums et 5 millions de disques vendus, Chimène Badi est prête à ouvrir une nouvelle page de sa vie. Pour l'occasion, elle convoque l'artiste qui l'accompagne depuis toujours.
Édith Piaf, elle m'apaise, elle me réchauffe le cœur, elle me rassure. Et donc elle va m'accompagner, je vais grandir avec elle.
Aujourd'hui, le moment est venu de présenter Chimène chante Piaf, son 8e album. Je suis Mélanie Young et dans ce podcast L'hymne à Piaf, je vous propose de découvrir une discussion en toute intimité avec Chimène Badi.
Je me fous du passé.
Bonjour Chimène.
Bonjour Mélanie.
Chimène, le public français t'a découverte en 2003.
Oui.
Avec l'émission Popstar. C'était une année charnière pour toi puisque tu commences ta carrière dans la musique et c'est un succès immédiat. Tu sors Entre nous, le single, l'album. Tu avais 20 ans et déjà une voix incroyable. Aujourd'hui, tu as 40 ans, déjà 20 ans de carrière derrière toi et tu as collaboré avec les plus grands artistes en France et à l'international. Tu as aussi sorti 7 albums, dont un disque d'or, 4 certifiés de platine, 1 de diamant. Et aujourd'hui, tu nous présentes Chimène chante Piaf, un album hommage à Édith Piaf. La première partie est sortie en janvier dernier avec 12 titres. L'intégrale sort ce mois-ci avec de nombreux inédits. Je suis très heureuse de te rencontrer aujourd'hui pour parler de cet album, mais aussi et surtout de toi.
Ouais.
Tu es née en 1982 à Melun et tu as vite déménagé donc avec ta famille et tes parents dans le Lot-et-Garonne à Villeneuve-sur-Lot, dans le sud-ouest. 82, qui était la petite Chimène? De quoi elle rêvait quand elle était petite?
Alors effectivement, mon papa est muté à Bordeaux et c'est pour ça qu'on quitte Melun, parce que papa travaillait à Melun en tant qu'agent d'établissement pénitentiaire. Et j'avais 2 ans et demi quand il a été muté sur Bordeaux, Bordeaux qui n'est pas très très loin de Villeneuve-sur-Lot, là où toute ma famille vit, mes grands-mères, mes oncles, mes tantes, mes cousins, mes cousines. Donc nous, on est basés avec maman, ma petite sœur et moi à l'époque, puisque mon petit frère n'est pas encore né, à Villeneuve-sur-Lot, à Bias plus exactement, et papa est sur Bordeaux à ce moment-là. Et donc jusqu'à l'âge de 5 ans, je suis à Bias et je suis très heureuse. Je suis une enfant épanouie, entourée d'amour, j'ai mes copines, c'est génial. Et papa a fait faire une construction d'une maison à Soubirous, qui est un petit village à côté de Villeneuve-sur-Lot. Et c'est là où je vais grandir, à partir de l'âge de 5 ans. Et là, ça va être une période plus compliquée. J'ai donc 5 ans, ma petite sœur a 3 ans. Ma mère est jeune, elle est seule. Et en fait, on est la première famille d'origine maghrébine à s'installer dans ce petit village. On va vivre le racisme et on va être menacé très régulièrement. Donc, c'est pas simple, cette période-là. C'est pas simple. Et là, je perds un peu cette innocence d'enfant. Et je me réfugie dans la musique, en fait. Mmh. Ça va être mon échappatoire. Et en vrai, je vais faire que ça. En fait, depuis toute petite, je fredonne et je chante. Mais à l'âge de 5 ans, quand on s'installe dans cette maison, dans ce petit village, là, tout d'un coup, la musique, elle devient vraiment mon doudou, quoi. Ça devient mon réconfort. Et je vais faire que chanter. Chanter, chanter et rêver, en fait. Rêver à devenir, moi aussi une artiste. Et à moi aussi pouvoir m'exprimer et dire les choses qui me font mal. Parce qu'à cette époque-là, Dieu seul sait à quel point j'avais mal. Voilà.
T'étais baignée dans la musique? Quelle sorte de musique t'écoutais?
Bien sûr que j'étais baignée dans la musique parce qu'en vrai, toute ma famille écoutait de la musique, que ce soit mes oncles, mes tantes. Ma mère, c'est la chanson française et mon père, c'est la musique noire américaine. Donc, c'est tout ce qui est rhythm and blues, soul, gospel et Johnny Hallyday. Parce que mon père, Johnny, c'est Johnny. Et donc, bien sûr que je grandis avec ça. Il y a de la musique tout le temps à la maison, il n'y a que ça. C'est quelque chose que je fais sans me rendre compte, en vrai. En fait, c'est mon moyen de m'exprimer, quoi. C'est ma parole. Parce que je ne parle pas beaucoup à cette époque-là. C'est-à-dire que jusqu'à l'âge de 5 ans, je suis une petite gamine hyper épanouie, très vivante. Mais quand on déménage là et qu'il se passe tout ça, c'est difficile pour moi, quoi. Donc, du coup, je perds un peu toute ma joie de vivre et je me renferme. Et c'est vrai que le fait d'avoir cette communion avec la musique et ce qu'elle me procure fait que tout d'un coup, j'ai de l'espoir, quoi. Il y a de l'espoir en moi, il y a quelque chose qui fait que petit à petit, j'ai moins mal, quoi.
Mmh. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu te dis « je veux que ce soit mon métier » ?
Oh, je me le dis très tôt, je crois que j'ai déjà 12 ou 13 ans que je sais déjà que je veux être une artiste. Mais même avant, tu vois Mélanie, même avant, parce que même à l'école, je ne sais pas si tu te souviens, on remplissait un papier où on marquait ce qu'on voulait devenir. Et j'ai marqué chanteuse. Et je me souviens que mon instituteur m'a regardée bizarrement. Et ça m'avait interpellée. Donc en rentrant à la maison, j'ai demandé à ma maman « Maman, chanteuse, c'est un métier ?» Alors elle a souri et elle m'a dit « Il faut d'abord bien travailler à l'école et après tu verras. » Mais en vrai, dans mon petit cœur d'enfant, déjà je voulais chanter, quoi. C'était passionnel. Ça me provoquait tellement quelque chose d'apaisant. Et c'était la seule chose sur cette planète qui avait réussi à me rendre heureuse, en fait. Du coup, j'ai jamais lâché ça. Et pour moi, c'était logique que je chante. Que ça en devienne mon métier, j'en savais rien. Mais que je chante, ça c'était logique. Il fallait que je chante. J'étais faite pour chanter. J'étais née pour chanter, j'avais besoin de chanter. C'est en moi, c'est viscéral. C'est physiquement nécessaire. Donc c'était naturel de prendre cette route-là. Il faut savoir que mon père ne savait pas que je chantais comme ça. C'est ma mère qui va lui dire « Tu sais, Chimène, elle chante, elle a une voix. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose. Tu devrais l'écouter. » Et vers l'âge de 12 ans, une après-midi, il est dans le jardin avec ma mère et il m'appelle, il me demande de lui chanter une chanson. Et il me dit « Tiens, chante-moi un titre de Stevie Wonder. » Je lui chante un titre de Stevie et il me dit rien à la fin. Il me dit « Merci, super et tout. Tu peux retourner faire ce que tu étais en train de faire. » Et à ce moment-là, il dit à ma mère « Effectivement, il y a un truc, je suis d'accord avec toi. Et si elle a envie de chanter, on la laissera pas tomber. » Voilà. Ça a été une force. Moi, mes parents m'ont pas laissé tomber, m'ont accompagnée. Hein.
Et comment tu fais pour passer de « j'aime bien chanter » à « finalement, je veux en faire mon métier » et essayer de trouver ma place ?
Je vois une bande-annonce, en fait. Je vois Popstar avec, à l'époque, les L5. Je regarde toute la saison, je trouve ça génial. Et je sais pas si ça va revenir ou pas, je sais pas s'il y aura une nouvelle saison. Je continue ma vie, mes études, je continue de chanter. J'envoie des maquettes un peu partout, pas de réponse, rien. Et puis, la bande-annonce de Popstar saison 2 arrive. Et là, je dis à ma mère, « Maman, il y a la bande-annonce, tu crois que je peux m'inscrire ?» Et elle me dit, « Mais bien sûr. » Et donc, je prends le téléphone et je m'inscris pour passer le casting à Bordeaux.
Oui.
Je vais avoir 18 ans. Et mon père m'accompagne à Bordeaux. Il y a plusieurs jours de casting et en fait, il y a tellement de monde. Je crois qu'on était 3000 à Bordeaux. Donc là, je rencontre le premier jury qui me fait chanter et qui me dit, « Bah vous, si vous continuez comme ça, je pense que vous irez très loin. » Ok, mais c'est des phrases qui me percutent pas plus que ça. J'arrive pas, c'est abstrait pour moi. Je sors de cette première journée de casting, le pauvre mon père m'attend toute la journée, quoi. Je sors, je lui dis c'est bon, papa. Deuxième jour, on rencontre enfin le jury officiel. Je chante, j'attends, on me donne un ticket, c'est ok. Je ressors, je dis à mon père bon, papa, c'est ok. Troisième jour, pareil, dernier jour de casting, on me file mon ticket. Et on nous dit, à tous ceux qui ont le ticket, maintenant vous attendez, on va vous appeler pour voir si vous venez faire la suite de l'atelier à Paris. Et donc là, il y a l'été. Et j'attends, et les jours passent. Et je fais même une forme de dépression, quoi. Parce que là, j'ai peur, en fait. Je me dis, ils ne vont pas m'appeler, ils ne m'appellent pas. Et on m'appelle, on finit par m'appeler. Je saute au plafond. Je monte dans le train, je monte à Paris. Je crois que c'est la deuxième fois que je monte à Paris de toute ma vie.
Et comment tu vis cette aventure Popstar au final ?
Oh, c'est une aventure merveilleuse. Si c'est à refaire, je re-signe tout de suite, quoi. C'était merveilleux pour moi, Popstar. Ça a été une expérience tellement jolie. J'en parlerai toujours avec beaucoup d'affection. J'ai fait des rencontres magiques. Ça a été mon premier pas vers ma passion. Donc c'est génial.
Je revois la ville en fête et en délire, suffoquant sous le soleil et sous la joie. Et j'entends dans la musique les cris, les rires qui éclatent et rebondissent autour de moi. Et perdu parmi ces gens qui me bousculent, étourdi, désemparé, je reste là. Quand soudain je me retourne, ils se reculent et la foule vient me jeter entre ses bras.
Et puis Popstar, il faut dire aussi que c'est très médiatisé,
ouais.
Parce que tu commences pas la musique voilà dans un bar ou quelque part où c'est un peu plus modeste au niveau du public. Tu commences très fort avec la médiatisation à la télévision.
Ouais.
Tu finis pas dans le groupe de Popstar,
non.
Mais malgré tout, voilà, on repère ton talent, on se dit qu'il y a quelque chose à faire dans la musique.
Mm-hmm.
Et tu signes dans ton premier label, et il va s'en suivre l'année d'après, ton album Entre nous,
ouais.
Avec le single qui va avec. Premier album, premier grand succès.
Ouais.
Comment tu vis ce succès? Est-ce que c'est un succès déjà pour toi?
Ah, c'est une bonne question. Bah, a priori, c'est un succès, d'après les chiffres, d'après tout ce qui en a découlé derrière. Moi, à ce moment-là, ça va pas. Donc.
Et pourquoi ça va pas?
Bah, ça va pas parce que j'avais pas mesuré qu'il y aurait tout ça derrière, en fait. Que la célébrité et la réussite engendraient aussi d'autres choses. Comme la haine, comme la critique, le jugement. C'est pas simple. Moi, je réalise pas à ce moment-là les belles choses. Je focus sur tout ce qui est négatif, quoi. J'étais pas préparée à partir de chez moi, de chez mes parents. Donc il y a cette rupture violente que j'ai pas prévue. J'ai 18 ans, je commence à peine ma vie, je quitte tous mes potes, je quitte tout. J'arrive ici, je suis partout, je m'arrête pas, je travaille sans arrêt. Je me plains pas, hein. Je raconte mon histoire, mais je me plains pas parce que ça m'a apporté énormément. Mais ma vie s'arrête pas. Et puis je fais pas partie des codes, physiquement et tout, je suis pas dans le moule. Alors ça aussi, on appuie du doigt. Et je suis seule face à tout ça, parce que je chante, je vends plein de disques, mais le soir, je rentre dans mon appartement à Paris, je ferme la porte et je suis toute seule. Je suis toute seule. Seule face à tout ça, et il n'y a personne, quoi. Je ne réalise pas le côté célèbre, je ne réalise pas tout ça, je ne réalise pas que ça marche, que je suis partout. Je ne réalise rien. Rien du tout. Les années passent et je ne réalise pas. Juste, je subis.
Il y a des moments quand même positifs,
ouais.
Qui te font voilà, continuer.
Les moments de scène.
Ouais.
Ouais. Les moments de spectacle. Mon premier Casino de Paris. Mon premier Olympia. C'est ce qui m'a tenue. C'est la seule chose qui m'a tenue. Et la scène, c'est quoi? C'est le public qui vient vous voir. Donc, c'est le lien que j'ai avec mon public depuis le départ, depuis plus de 20 ans maintenant, qui a fait que j'ai tenu. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Il faut une force. Une force puissante. Et cette force puissante, à part Dieu, il y a le public, quoi.
Mmh.
Voilà. Mais l'issue de tout ça, c'est que par contre, aujourd'hui, je suis beaucoup plus forte. Et que finalement, aujourd'hui, la musique, c'est beaucoup plus compliqué. Mais j'ai jamais été aussi bien, finalement. Alors qu'à l'époque, ça marchait de ouf, c'est sûr. On vendait des millions de disques et on était partout. Mais où est-ce qu'il était le bonheur au milieu de tout ça, je sais pas. Les critiques quand t'as 18 ans et que on fait des photos de ton visage et qu'on les fout en gros plan sur les magazines People, c'est t'as 18 ans, ça peut te bousiller pour le reste de ta vie. Ou qu'on te critique parce que physiquement tu ressembles pas aux petites blondes toutes fines qu'on voit à la télé à ce moment-là, ou aux petites brunettes toutes pétillantes. Non, toi t'es une petite nénette qui a un visage mignon, mais qui a des imperfections, qui a des cheveux frisés, qui est un peu rondouillette, voilà, qui est pas encore fini, quoi. Eh ben non, là, on va lui tomber dessus, et ça va être une fixette me concernant. Ces critiques sur moi, quoi. À la fin, moi, je me sens immonde. Je me rappelle d'un moment de ma vie, juste après l'album « Entre nous ». Mon chef de projet de l'époque me fait rencontrer une équipe. une équipe qui va s'occuper de mon look, de mon physique, me relooker patin couffin. On fait une réunion. Ils sont je sais pas combien. Et alors il commence. Ben, il faudrait lui enlever les poils des bras, il faudrait lui enlever les poils du visage. Là, ses cheveux, il faudrait faire comme ça. Et puis peut-être qu'il faudrait penser à ça. Il faut lui. Je suis sortie de là. J'avais 19 ans. Je suis sortie de là. J'avais l'impression que j'étais un monstre.
Oui.
Mais là, en fait, c'était trop. Et en vrai, je me suis dit, mais à quelle heure, moi, on m'a dit, si tu veux devenir une chanteuse, il faut que tu aies les mensurations d'un mannequin. À quel moment? Et en fait, ça m'a tellement révoltée que quelque part, j'avais envie de prouver qu'on pouvait aussi réussir, même en étant ronde, même en ayant un physique, eh ben, pas forcément dans le moule du moment, si on peut dire ça comme ça. Et c'était comme un combat, en fait.
Toutes ces critiques, quel rôle elles ont eu sur ta carrière, au final?
C'est surtout que ces critiques, elles ont eu beau avoir lieu, ça m'a jamais empêché de de faire ce que je rêvais de faire, c'est-à-dire de chanter pour un public. Voilà. Et ça fait 20 ans que je fais ce métier. Ça m'a pas empêché de me casser la gueule, c'est vrai. Il y a eu des moments où ça a été plus compliqué, où le public a pas répondu présent, notamment un disque, bien précisément. Mais en fait, ça m'a prouvé que j'étais forte aussi. Ils ont eu beau faire, hein. Ça a pas marché. Et finalement, aujourd'hui, je me sens totalement épanouie et à l'aise avec mon image et avec ce que je reflète. Et puis, ça a été aussi l'exemple pour plein de personnes qui me suivent dans mon public et qui savent, qui connaissent mon histoire et qui la transmettent à leurs enfants aujourd'hui. Et ça leur donne de la force. Et ils se disent que finalement, si moi, j'ai pu le faire, eux aussi peuvent le faire. Et moi, ça, c'était quelque chose que je voulais défendre. C'était trop important pour moi. Et ouais, j'ai assumé à un moment de pas être dans les codes. Je l'ai assumé. Pour finalement prouver qu'il n'y avait pas nécessité de faire un 80, 60, je ne sais plus les mensurations, mais en tout cas d'être dans des mensurations bien précises et dans un physique bien précis pour exister en tant qu'artiste. Merde, quoi. C'est important. Et puis moi, j'aurais bien aimé qu'on me le dise à cette époque-là. Et donc, il faut le dire, c'est important de le partager. Les expériences qu'on vit, nous, artistes, on a l'opportunité de pouvoir en parler. Donc, il faut le dire, parce que si ça peut accompagner certaines personnes, c'est cool, quoi. Mmh.
Quelle est la relation avec ton public?
Alors moi, j'ai une histoire d'amour avec mon public qui est assez exceptionnelle, hein. Bon, après, je sais pas les autres artistes qui vivent avec leur public, mais moi, c'est assez fusionnel. Moi, j'ai même certaines personnes de mon public qui ont mon numéro de téléphone, avec qui j'échange, avec qui je parle. J'ai des moments de complicité avec beaucoup. Je prends du temps après chaque spectacle pour discuter avec eux, pour échanger. Sur scène aussi, j'échange beaucoup avec eux. On se marre, je rigole. Pour moi, c'est des parenthèses enchantées, ces moments-là. Et c'est un cadeau. Il y a beaucoup d'affection, beaucoup de respect. Et ouais, j'ai un amour particulier pour mon public parce qu'au milieu de tout ce que je t'ai raconté, c'est eux qui ont été là, quoi.
Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer et la terre peut bien s'écrouler. Peu m'importe si tu m'aimes, je me fous du monde entier.
J'ai l'impression que ton public, ben tu disais peut-être que sauf un album, mais il t'a suivi tout le long de ta carrière,
ouais,
qui est déjà
rien, ouais.
20 ans. Mmh. Tous ces disques, alors c'est des chiffres comme on dit sur le papier, mais ça veut quand même dire qu'il y a une fidélité assez
ouais.
forte
ouais.
au travers de tes 7 albums. Mmh. Là, ton 8e album qui est un hommage à Edith Piaf,
ouais.
donc ça s'appelle Chimène chante Piaf.
Ouais.
Pourquoi avoir choisi de reprendre des chansons d'Edith Piaf et de lui rendre hommage à travers un album entier, voire deux, puisque là, on a deux éditions.
Parce que c'est une artiste que j'aime énormément, pour qui j'ai beaucoup, 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 beaucoup d'affection, de respect. Et elle fait partie... C'est la première artiste française de la chanson française qui m'a d'abord bouleversée et ensuite inspirée. Je l'ai connue toute jeune grâce à ma mère, parce que ma mère écoute beaucoup la chanson française, comme je te l'ai dit au départ. Et elle avait plein de cassettes. Et un jour, j'ai pris une cassette parmi tant d'autres que j'ai mis dans mon petit baladeur jaune que mon tonton m'avait offert. Et je découvre Edith Piaf. Et c'est un bouleversement, j'ai 5 ans, je crois. Et c'est un bouleversement. Je vais grandir avec elle. Et tu vois, c'est une période qui est compliquée. 4-5 ans, je t'ai raconté ce qui se passe. Je suis pas forcément bien et j'écoute Edith Piaf. Je pense que parce que... Et c'est pas non plus très gay, Edith Piaf. Donc, mais elle m'apaise. Elle me réchauffe le cœur. Elle me rassure. Et elle fait aussi que je tombe amoureuse de la chanson française, quoi. Et de la langue française. Et donc, elle va m'accompagner. Je vais grandir avec elle. Hein. Je vais faire que l'écouter. Et adolescente. Et plus vieille. Et ensuite, je vais devenir une artiste confirmée. Je vais commencer à chanter. Je vais faire des télés. Je la chante. Ensuite, sur certains concerts, je commence à mettre un titre. Mais je sais dans ma tête qu'un jour, je vais la chanter. Qu'un jour, je vais vraiment lui faire un hommage. Mais j'attends le bon moment, Mélanie. J'attends le bon moment parce qu'en fait, chanter Piaf, je pense qu'il faut un parcours de vie de femme. Il me fallait mon propre parcours. Il me fallait beaucoup de choses et ma propre existence pour pouvoir incarner de la façon la plus juste, la plus authentique possible les œuvres d'Edith Piaf. Et honnêtement, chanter Non, je ne regrette rien à 20 ans, c'est un peu abusé. Donc voilà. Et lors du premier confinement, pas une période super top, hein, ben moi je suis posée. Puis je réfléchis à la suite, je pense à plein de choses. Et je réécoute beaucoup Edith Piaf à ce moment-là aussi. Puis à un moment donné, je me dis, mais meuf, en fait, c'est le moment, quoi. C'est maintenant ton prochain projet, ton prochain spectacle. Parce que je pense d'abord au spectacle avant même de penser au disque. Ton prochain spectacle, ça doit être un hommage à Edith Piaf.
Et pourquoi ? En quoi ça résonnait avec ta vie aujourd'hui ?
Tout résonnait. Les mélodies, les textes. Il y a des textes qui me parlent particulièrement. Et tout prenait son sens vraiment là, à cette période-là. C'est comme si tout d'un coup, ces chansons que j'écoutais d'Edith Piaf depuis toute jeune, je les comprenais réellement là.
T'as une chanson en particulier ?
Une chanson en particulier, ben oui, bien sûr. J'ai hésité, mais évidemment, et c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai choisie en premier, Non, je ne regrette rien. Non, je ne regrette rien parce que tout ce que je t'ai raconté, et j'aurais bien aimé t'en raconter plus, mais alors là, il faudrait qu'on prenne 3 ou 4 jours. Tout ce que je t'ai raconté, ben, dans la chanson Non, je ne regrette rien, elle dit si bien Non, je ne regrette rien, ni le bien qu'on m'a fait, et ni le mal. C'est tellement important pour moi de pouvoir dire cette phrase enfin, en chanson. Ni le mal. Tout ça m'est bien égal. Ça a résonné tellement fort en moi, en fait. Et je me suis dit, j'ai dit à mes équipes, je veux que ce soit celui-là le premier. Je veux que ce soit Non, je ne regrette rien, c'est important pour moi. Parce que ça marque vraiment le début d'autre chose. Il y a vraiment un livre que j'ai fermé sur ces 20 dernières années. Je ne garde que le meilleur, que les plus belles choses, dont la naissance de mes neveux, de ma filleule, les spectacles que j'ai vécus, les rencontres avec les artistes que j'ai pu avoir, avec qui j'ai chanté, des artistes exceptionnels. Tout ça, je le garde, bien évidemment. Certaines de mes chansons que j'aime d'amour, tout ça, je le garde dans mon cœur, profondément. Et la relation que j'ai avec le public, mais tout le reste, il est nécessaire de le laisser derrière. Et c'était absolument important que je le ressente, pas juste que je le dise. Et que finalement, tout ce qu'on avait pu me faire de mal, eh ben, c'était plus là. C'était loin aussi derrière. Que oui, c'est dans mes souvenirs, mais que ça me fait plus mal. Alors voilà, fallait se libérer de tout ça et il fallait le dire en chanson. Et j'ai eu la chance d'avoir cette chanson. Non, je ne regrette rien pour pouvoir le faire.
Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. C'est payé, balayé, oublié. Je me
J'imagine qu'ensuite, quand on se dit qu'on rend hommage à Edith Piaf, c'est pas si facile. Tu dis que c'est un défi ?
Eh ben, il y a une forme de responsabilité parce que pour moi, Edith Piaf, ça reste un grand patrimoine de la chanson française. Et comme tous les grands patrimoines, on a toujours peur d'y toucher. Et on ne veut pas abîmer. Et c'était pour ça que je le voyais comme un défi. Et quand j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer Charles Dumont, qui a été parolier et compositeur d'Édith Piaf, et avec qui j'ai pu échanger, et qui finalement m'a donné son aval, et qui m'a rassuré avec ses mots, je pense que c'était ce qu'il me fallait pour y aller, quoi. Et j'y suis allée. Mais avec une émotion. Je n'ai jamais ressenti l'émotion que j'ai ressentie le jour de mon Olympia pour chanter Édith Piaf. Émotionnellement, quand je me suis levée le matin, j'avais envie de chialer tout le temps. J'étais émue de ce qui était en train de m'arriver et de ce que j'allais vivre. Ça, tu vois, je ne l'ai pas ressenti pour ma première scène à mes débuts.
Ce qui est incroyable, parce que bon, il faut rappeler que tes premières scènes, tu as fait un duo avec Johnny Hallyday, ouais. Tu as fait des duos avec voilà, énormément d'artistes incroyables, Lionel Richie, Billy Paul, etc.
Ouais.
Et là, de reprendre Édith Piaf.
Ouais. Parce que j'aime tellement cet artiste et je voulais tellement arriver à faire cet Olympia. Et j'ai tellement cru que j'y arriverais pas. J'ai vraiment réalisé ce qui se passait, contrairement à mes débuts où je réalisais pas ce qui était en train de se passer. J'ai réalisé à quel point j'avais de la chance que le public soit là pour m'accompagner. Quand on réalise vraiment, c'est quelque chose qui vous bouleverse quand même, d'avoir un public en face de votre gueule qui est là pour vous accompagner sur un projet en plus où j'y ai laissé toute mon âme, tout mon cœur, tout mon temps, toute mon énergie. D'être accompagnée comme ça, c'était émouvant.
J'ai l'impression qu'il y a certains points communs entre Édith Piaf et toi sur cette voix, cette personnalité, ce parcours aussi. Elle a vécu pas mal de souffrances dans sa vie.
Ouais.
Toi, t'as pas commencé non plus à 5 ans quand on vit du racisme. C'est pas la meilleure façon voilà, de commencer sa vie. T'as l'impression d'être proche d'elle ?
Oui. On a eu des similitudes dans nos parcours de vie. Pas les mêmes. Mon Dieu, elle a eu une vie tellement difficile. Semée d'embûches, de difficultés, de douleurs, de drames. Mais ça l'a jamais empêchée d'aller là où elle avait envie d'être. Et c'est ce que je dis aussi pour moi. C'est-à-dire que on a vécu des moments difficiles dans nos vies. J'ai vu mes parents souffrir. J'ai vu ma mère souffrir. Avoir peur. Moi, j'ai souffert. Au collège et tout. C'était pas facile. Ensuite, il y a eu le monde de la musique. Mais aujourd'hui, à 41 ans bientôt, moi aussi, je suis là où j'avais envie d'être. Et je trouve que c'est assez mignon, quoi. Et cette personnalité très forte qu'avait Édith Piaf, moi, ça m'a toujours parlé parce que, justement, j'ai ce côté-là très, très fort où je me laisse pas faire. Elle se laissait pas faire. Elle avait, dans ce petit bout de femme-là, il y avait un côté très masculin, très fort, très puissant. Et j'ai ce côté-là très masculin aussi, ce qui fait de moi une vraie femme d'ailleurs, qui fait que du coup, je sais pas, j'ai l'impression qu'on aurait pu bien s'entendre, quoi, elle et moi.
En tout cas, tu lui rends un bel hommage.
Merci.
Donc aujourd'hui, on est en 2023.
Ouais.
T'as ce nouvel album.
Ouais.
Tu sembles épanouie.
Ouais. Ça va, je suis cool.
Qu'est-ce que t'aimerais dire à tes fans aujourd'hui ?
Merci. Je voudrais leur dire un immense merci. Merci de toujours avoir été juste avec moi, parce que c'est ça. Merci de m'avoir porté si haut, parce que c'est eux qui m'ont porté si haut. Et merci de tout cet amour, merci pour tout cet amour, merci, tout simplement.
Alors on a parlé de tes fans, est-ce que tu aurais quelque chose à dire à tes haters ?
Eh ben merci.
Merci aussi.
Merci aussi, ouais, bien sûr, parce que toute l'énergie qu'ils utilisent à vouloir nous atteindre fait qu'à la fin, finalement, si on arrive à avoir le recul nécessaire, ça nous fait marrer. Parce que moi, ça me fait marrer, hein. Honnêtement, il y en a, ils me font rire. Ça me fait rigoler et puis ils sont une force aussi, en fait, parce que en vrai, moi, je me dis un truc, je me dis que si on vient décharger sa haine comme ça sur quelqu'un, c'est que finalement, peut-être qu'il nous intéresse un peu, quoi. Donc, et puis, j'ai une petite astuce aussi, c'est que je lis pas vraiment les messages, quoi. Je fais gaffe, quoi.
Tu te protèges ?
Non, je leur dirais merci aussi, mais bon, reposez-vous, hein. Voilà.
Oui, arrêtez d'utiliser ton énergie.
Ouais, reposez-vous, utilisez votre énergie pour des choses peut-être qui pourraient nous aider à faire avancer, à mon avis, des choses plus importantes, ouais, je pense. Voilà.
Est-ce qu'il y a des choses qu'on ne sait pas forcément sur toi, des choses, 5 choses insolites que tu pourrais nous partager?
Alors, il y a par exemple quelque chose que j'ai qui est phobique et absolument hyper difficile à gérer, mais qu'on ne sait pas. Un essaim de guêpe, par exemple, son visuel, et le fait que ça grouille, qu'ils soient les uns sur les autres, tu vois, là, rien que t'en parler, déjà, je me sens pas très, très, très bien. Ça, c'est visuellement, et je ne sais pas d'où ça vient, il faudrait que j'essaye de trouver. C'est une phobie, une réelle phobie. Et c'est très difficile de gérer une phobie, je trouve. C'est, oh! Je pourrais dire ça, je pourrais dire aussi que je suis quelqu'un de maniaque, on le sait peut-être pas, mais j'ai un problème avec ça aussi. Oui. Et c'est difficile pour moi parce que je passe ma vie à nettoyer, du coup. Et c'est difficile pour les personnes qui m'entourent, c'est difficile pour mon compagnon, et pour le fils de mon compagnon, du coup, pour mon beau-fils, parce que ou même pour mes neveux, mais j'essaye de faire des efforts, je prends sur moi, du coup je les laisse un peu mettre le bazar, mais dès que tout le monde est parti, il faut que je range tout au carré. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous dire? J'ai été diagnostiquée il y a quelques années, il y a 2 ans en arrière, hypersensible. Donc, les émotions décuplées, il y a des bruits que je ne supporte pas, il y a... Dans le train, pour moi, c'est très difficile. Heureusement que je suis avec mes écouteurs et je mets, par exemple, de la pluie ou des bruits qui me détendent parce que ça me fatigue. Ça. Et ça, c'est l'hypersensibilité. Donc ça, j'en parle parce que je pense que c'est important si vous sentez en vous des choses particulières, ou vous sentez différent ou un peu à part, ou essayez de voir parce que quand on sait ce qu'on a, je trouve que ça aide après dans la vie. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Ah ouais, dans la vie de tous les jours, je ne suis pas quelqu'un qui se maquille ou qui est très apprêtée. Je suis maquillée, coiffée, apprêtée pour les promos télé, pour les concerts et choses comme ça. Mais dans la vie, je suis plutôt quelqu'un d'assez détente. J'aime bien, par contre, le matin, avoir mon petit rituel beauté. C'est-à-dire que je me lève le matin et je me passe une lotion sur le visage fraîche, rafraîchissante, qui décongestionne. Et je mets toutes mes crèmes dans mon frigo. J'aime bien le côté très naturel. Donc, je suis plutôt jean, basket, très détente, très flex, prête à tout, parer pour toute éventualité. Ouais. Voilà. Et qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Eh ben, j'aime beaucoup dessiner. Voilà. Okay. Je suis quelqu'un qui aime dessiner, qui dessine et qui aime ça parce que ça m'apaise énormément. Voilà.
Et ben, très intéressant tout ça. On a appris plein de choses d'un coup.
Ben, super. C'est génial.
D'un coup. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite?
Oh, de garder cette stabilité qui est plutôt cool, stabilité psychologique en fait, hein, je parle. Et puis que je continue à m'éclater avec mon public comme je le fais en ce moment, quoi. D'avoir toujours ce rapport à la scène. C'est ça, moi, qu'on peut me souhaiter. Parce que c'est quand même ce qui est primordial dans mon existence.
Donc aujourd'hui, on peut dire que tu regrettes rien?
Ouais, très clairement, on peut dire que non, je ne regrette rien, très sincèrement.
Est-ce qu'on peut dire que tu vois la vie en rose?
On peut dire que je vois la vie en rose, oui, c'est vrai, bien sûr, ouais, c'est très réel. Je vois la vie en rose parce que je suis consciente d'être une privilégiée. J'ai des moments difficiles, mais il y a cette foi qui m'anime et qui m'apaise. Il y a la relation que j'ai avec le public, il y a la relation que j'ai avec mes équipes dans le travail avec qui c'est merveilleux. J'ai ma relation de famille forte. Ça, c'est très, très puissant. J'ai mon chéri. Je suis entourée d'amour. Ce serait quand même pas juste pour moi aujourd'hui, à 41 ans bientôt, de ne pas voir quand c'est joli dans ma vie. Aujourd'hui, je sais le voir. Donc oui, je vois la vie en rose. Ouais.
Bon, je te souhaite que ça dure longtemps.
C'est gentil. Merci beaucoup. Merci.
Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose.
Vous venez d'écouter L'Hymne à Piaf, un podcast Warner Music France avec Chimen Badi, produit par Bonjour Podcast à l'occasion de la sortie de l'album Chimen chante Piaf.
Il est entré dans mon cœur.
Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes d'écoute.
Dont je connais la cause.
Présentation, interview et réalisation, Mélanie Young. Prise de son, montage et mixage, Julien Rebourg. Et derrière le micro, Chimen Badi.
Et dès que je l'aperçois, alors je sens en moi mon...